Bonjour et bienvenue au podcast Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, dans la série Goutte de sagesse, ce qui nous empêche d'être libres, le système ou nous-mêmes? Rencontrez cette grande question avec Daniela Barella et Charles Goyette, philosophes. Bonne écoute.
Rencontrer de nouveau cette notion, ce concept, peut-être ce rêve de la liberté, selon diverses visions ou diverses perspectives. Et peut-être, Daniela, tu voudrais nous en parler un petit peu de ça?
Oui, bien sûr. Je pense que la liberté, c'est un terme, la notion qu'on a de liberté aujourd'hui, elle est différente à la notion de liberté que disons, les anciennes civilisations ont eue déjà. Par exemple, récemment, j'ai lu un livre puis, qui disait que les Mayas, pour eux, l'être humain n'est pas libre. Il faut que lui, il développe sa liberté en faisant des choses dans sa vie. Et le plus en accord que les choses que l'être humain fait, le plus en accord que l'être humain est avec la nature, le plus libre qu'il va être. Donc, au contraire, si l'être humain agit contre la nature, contre les lois de la nature, il va être enfermé dans sa propre prison. Donc, c'est une notion intéressante parce que ça donne aussi à l'être humain le pouvoir de décider, de dire d'abord de connaître les lois de la nature et après décider et dire... Et je veux agir en accord des lois de la nature ou simplement dire ben, c'est n'importe quoi, je vais faire ce que je veux. Ça dépend de chacun de nous. Donc, ça reste quelque chose de mystérieux, la définition, qu'est-ce que c'est la liberté. Et on peut penser aussi que se libérer de quoi? Mais des fois, on peut dire, je voudrais me libérer de mon travail. Mais c'est toujours une chose extérieure. Parce que tu passes d'un travail au prochain travail, puis t'es juste libéré de ton premier travail, mais tu dois encore travailler, faire autre chose. Disons, je voudrais me libérer de cette salle. Bon, tu vas sortir, tu vas aller dans une autre salle. Donc, c'est toujours des choses extérieures. Et puis, oui, voilà, c'est...
Merci pour ces exemples-là. Et aussi, quand tu parlais des Mayas, de ces traditions dans le monde maya, mais il y a d'autres traditions philosophiques, pour ceux qui ont le dépliant, là, par exemple, dans le bouddhisme, on dit, ah, ben, le Bouddha, c'est l'illuminé, c'est celui qui s'est libéré. Donc, il a atteint la libération. Mais comment il l'a atteinte? C'est par la cessation de la souffrance. Il a trouvé le chemin pour se libérer des souffrances, des contraintes que nous connaissons. Alors, ce n'est pas une voie, disons, de se libérer de choses extérieures, mais vraiment de se libérer de l'intérieur. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais se libérer de la perception qu'on a du monde, d'une perception erronée ou d'une perception illusoire. Donc là, c'est une toute autre conception de la liberté. Pareil au Tibet, donc ils ont une conception un peu différente dans les traditions du Tibet. Il y en a quelques-uns ici qui ont suivi notre cycle de formation. Donc on se rend compte que pour les Tibétains, il y a aussi une voie de libération. Et ça passe pas par, des fois on dit ben, « je voudrais posséder plus de choses par l'accumulation ou la richesse ou la consommation ». Eh bien, pas du tout. Alors, ils ont une toute autre perspective que nous sur ce que c'est que la voie de libération et la liberté, disons.
Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait une différence entre liberté et libération. Puis parce que la liberté est un moyen et la libération, c'est l'objectif, disons. Et par exemple, si on voudrait accomplir un rêve, il faut qu'on se libère des petits empêchements qu'on peut avoir. Disons, mon rêve, c'est de voyager aller en Europe. Puis j'ai d'empêchement, puis disons, j'ai pas d'argent. Mais il y a toujours une solution pour ça, pour que je puisse être plus libre pour pouvoir voyager. Mais ça, c'est une liberté. Toujours, on parle d'extérieur, d'extérieur, d'extérieur. Mais si on veut parler de la vraie liberté, disons, parce que personne ici, je pense qu'il y a la définition 100% de qu'est-ce que c'est la liberté. Mais au moins, si on veut s'approcher un peu plus à la source, un peu plus au centre, on peut dire qu'il y a une liberté qui ne va pas bouger, est une liberté qui est construite autour des valeurs. Des valeurs parce que les valeurs sont intemporelles. Si ma liberté dépend de quelque chose d'extérieur, ça va toujours bouger, ça va toujours risquer, ça va toujours bouger. Disons, si ma joie dépend de cette tasse ici, puis quelqu'un vient et ma tasse tombe par terre, elle se casse, puis je suis malheureuse parce que j'ai plus de tasse. Donc, je ne peux pas faire que ma liberté, ma joie, ma bonheur dépendent de quelque chose d'extérieur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut, en fait, faire que ça vient de l'intérieur. Donc, mon intérieur, c'est plus... Je peux plus avoir confiance de mon intérieur parce que c'est moi. Ce n'est pas quelque chose d'intérieur, d'extérieur.
Mais ce dont tu nous parles, là, c'est... Ça aussi, on le retrouve dans le programme avec... la philosophie qu'on appelle le stoïcisme. Il y en a qui peut-être connaissent cette philosophie du stoïcisme, à l'époque romaine, entre autres. Et on sait qu'à l'époque de l'Empire romain, il y avait des gens très, très riches et très puissants, et d'autres qui étaient des esclaves. Et étrangement, il y a parmi les très grands philosophes de cette époque, il y en a qui étaient des esclaves. C'est-à-dire, je pense à Épictète, par exemple, et qui n'avait pas de liberté extérieure. Il était... Pratiquement tenu à résidence et malgré tout il exprime dans ses textes philosophiques avec ses disciples il exprime un très grand esprit de liberté, si je peux dire, une approche de l'être humain qui est comme détaché, disons, détaché des choses matérielles. Et ça, c'est dans une période où lui-même il est pris physiquement, il n'est pas libre physiquement. Donc, il y a comme plusieurs degrés, peut-être aussi, de liberté, si on veut réfléchir à cette notion, sur plusieurs niveaux.
Un autre exemple qu'on pourrait avoir, disons, aujourd'hui, on admire beaucoup les athlètes ou des gens qui, on voit, qui se sont dépassés. Parce qu'ils se sont dépassés malgré les circonstances. Donc, on admire les gens qui ont pris un engagement vers quelque chose, disons, un athlète, un engagement, disons, vers... je veux aller aux Jeux olympiques. Donc, mon engagement, c'est de m'entraîner à tous les jours pour pouvoir participer aux Jeux olympiques. On pourrait dire, mais tu es plus libre si tu dois toujours aller t'entraîner 6 heures par jour. Donc, parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mais en fait, je suis en train de... laisser de côté comme les plaisirs instantanés pour travailler sur quelque chose de plus grand que moi, parce que ça va m'aider à dépasser mes propres limites, les limites que peut-être j'avais pensé, oh non, ce sont trop grandes, des limites trop grandes, je ne vais pas pouvoir, parce que finalement ce sont les limites qui nous empêchent. Donc quand on s'engage à quelque chose, on dépasse les limites. Quand on dépasse les limites, on est plus libre. Donc, malgré ce qu'on peut penser, l'engagement et la liberté ne sont pas nécessairement des choses contraires. C'est ça qui est intéressant.
Et dans l'exemple des Olympiques, des Jeux olympiques, vous savez, l'origine de ça, en tout cas, est mythologique. On dit que c'est Hercule ou Héraclès qui a fondé les Jeux olympiques en Grèce ancienne. Et Hercule ou Héraclès, c'était l'être humain accompli. Donc, il a fait les 12 travaux, peut-être vous avez entendu parler des 12 travaux d'Hercule. Donc, c'est un cycle complet. Il a accompli l'humanité, il a accompli son humanité. Et les Jeux olympiques, à l'époque, et même ici à Montréal en 76, j'étais là, il y a plusieurs qui n'étaient pas là, moi j'étais là à l'époque, eh bien, ce n'était pas simplement des compétitions sportives, mais il y avait aussi un volet artistique très important. Et donc, des œuvres d'art, il y avait beaucoup. C'était très. Ça élargissait de beaucoup le spectre qu'on pourrait penser que simplement l'effort physique, mais il y avait aussi beaucoup de créations artistiques, des compétitions d'art et tout ça, qui se sont déroulées pendant, ici à Montréal en tout cas, pendant les Jeux Olympiques. Et pourquoi? Parce que l'esprit olympique, je le dis puisque c'est l'exemple là, de la dernière, mais cet esprit olympique considère que l'être humain peut accomplir des actes héroïques, des actes remarquables physiquement, parce qu'il y a quelque chose, il y a une ressource en lui qui est plus grande que le corps physique ou qui transcende le corps physique. Et donc, c'est comme une conscience ou c'est comme une âme ou un esprit ou quelque chose qui est capable de faire que ben, notre corps dit « Non, je ne suis plus capable. » Et pourtant, en nous, il y a comme un pouvoir qui dit « Oui, tu peux continuer. » Et effectivement, on le fait. On l'a fait. Donc ça, c'est la vision aussi de l'être humain. Ça, c'est la conception de l'être humain. Parce que il y a comme deux clans de vision actuellement de l'être humain. Il y a l'être humain comme une machine biologique qui est assez populaire présentement, non? Là, on parle de transhumanisme, donc l'être humain augmenté par la machine. Et d'autre part, il y a une autre vision qui est plus classique, on pourrait dire, qui est celle de l'être humain en tant que, on pourrait dire, une conscience qui habite un véhicule physique. Donc, c'est complètement autre chose, n'est-ce pas? Donc, nous, c'est sûr que quand nous, on passe notre journée, quand on vit notre journée, on n'est pas en train de se demander est-ce que je vais plier mon coude, est-ce que je vais prendre la tasse. On le fait. On n'a pas besoin d'y penser, on n'a pas besoin de faire un effort particulier pour ça. Donc, c'est comme si notre corps physique, pour nous, il est invisible, finalement. Par exemple, moi, je vous vois tous, mais je me... C'est mon fameux pouvoir. Donc, je vous vois tous, mais je ne me vois pas moi-même. Donc, je suis comme invisible. Pourtant, ma conscience est là, non? Donc, c'est un peu ça l'idée que l'être humain peut être soit juste vraiment la machine biologique ou peut être considéré comme étant comme une âme à l'intérieur de cette machine physique, disons, de cette machine biologique. Et waouh, ça, c'est deux visions très différentes. Ça, pour la liberté, ça va donner deux façons d'envisager très différentes.
Et maintenant que tu penses son petit corps physique, on peut aussi se rendre compte qu'il y a différentes manières ou manières de liberté. Disons, dans les corps physiques, être libre, disons, c'est facile de voir la liberté. Disons, je ne suis pas attachée, donc je peux bouger mes mains comme je veux. Mais il y a aussi la liberté, disons, psychologique ou émotionnelle. Que c'est, bon, je ne vais pas dépendre des opinions des autres, parce que moi, j'ai travaillé, j'ai investigué pour avoir et cultiver ma propre opinion, qui continue toujours à être une opinion, parce qu'on n'attend pas la sagesse, disons. Mais, bon, la liberté est psychologique, émotionnelle, quand on l'attend, on se sent plus libre que quand on atteint la liberté physique. Disons, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il y a eu dans l'histoire des gens qui ont été emprisonnés. Donc, tu es en prison, ta liberté physique est limitée parce que tu es enfermé par quatre murs, disons. Mais psychologiquement, ces personnes-là étaient libres. Sont comme Mandela, Gandhi et tout. Des gens qui ont lutté pour l'humanité, ils ont été emprisonnés, donc on leur a enlevé la liberté physique. Mais son cœur, son âme était toujours là. Son corps, son âme était toujours libre. Donc c'est quelque chose de très intéressant, très inspirant. Même Giordano Bruno, on a fait une activité en février. On a parlé beaucoup de lui parce que lui était très inspirant pour beaucoup de monde. Parce que malgré qu'il, lui aussi, il a été enfermé pour parler de ses idées qui n'étaient pas en accord avec le temps où il a vécu. Mais il continuait à être libre, il continuait à partager avec les autres ce qu'il pensait, ce qu'il ses connaissances. Donc, je trouve ça vraiment encourageant.
Mais là, je reviens à ta question, Daniela, parce qu'on n'a comme pas répondu à la question. Ah. C'est, mais la liberté, pourquoi faire? Mm. Si on est libre, c'est pourquoi? Mettons, on veut dire, mais moi, je veux être libre. Ben, c'est pour faire quoi avec cette liberté? Donc, il me semble qu'il faudrait qu'on aborde ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
Oui.
Ah, vous êtes d'accord aussi? OK. Ouais. Bien, ben, peut-être on peut créer une image, on peut faire peut-être symboliquement cette réflexion ensemble, parce qu'il y a le printemps qui s'en vient, j'ai remarqué. Oui, vous avez remarqué? Oui, moi aussi. Donc, le printemps s'en vient. Donc là, c'est le temps où on va bientôt pouvoir faire le jardin, planter des choses. Moi, j'aime bien les citrouilles. J'aime pas manger des citrouilles, mais j'aime parce que c'est gros, tu sais, puis c'est comme, c'est beau, des belles grosses citrouilles dans le jardin, j'aime ça. Mais quand on... oui, il va falloir attendre. Mais... quand on sème les graines de citrouille, elles sont toutes petites, n'est-ce pas? Mais on sait que quand on sème des graines de citrouille, qu'est-ce qui va pousser?
Citrouille.
Des citrouilles, n'est-ce pas? Donc, elles ont comme leur destin déjà écrit. C'est-à-dire que chaque graine, si on dit, ben, je veux des carottes, et puis je veux des citrouilles, tout ça, on peut dire le destin de chacune de ces graines est déjà écrit, disons. On sait ce que ça va donner. Si les conditions sont bonnes, évidemment, qu'on en prend soin, que tout se passe bien, bon, elles vont devenir des citrouilles. Ou des carottes, ou peu importe ce que c'est. Mais si on sème des graines de citrouille, ce n'est pas des carottes qu'on va avoir, n'est-ce pas? Donc, il y a comme une ligne, comme une identité qui va du début à la fin. Et on remarque dans le monde minéral que c'est la même chose aussi. Quand on s'intéresse aux pierres précieuses, par exemple, on dit, ah, ben, les diamants, n'est-ce pas, qui sont parfaitement transparents, ils viennent d'où? Ils sont de la même nature que le charbon. Mais le charbon, c'est noir, c'est opaque, c'est salissant, non? Et pourtant, avec le temps, avec la pression, avec la... Eh ben, ce même carbone, ce même charbon devient du diamant, devient translucide. Donc, c'est comme s'il y avait un destin pour toute chose, d'une certaine manière, ou en tout cas une ligne d'évolution que les anciens appelaient un dharma, quelque chose qui donne la direction de l'évolution de toute chose. Et donc, sans tirer une conclusion, mais on pourrait penser que l'être humain a possiblement aussi un destin ou une direction, quelque chose qu'il doit atteindre. C'est pour ça, parce que si on se demande la liberté, pourquoi faire, ben, j'imagine que ça serait pour qu'on puisse atteindre notre destin ou notre épanouissement, quelque chose comme ça.
Oui. Et c'est intéressant aussi parce que, disons, le fait d'atteindre la liberté, comme tu dis, un diamant, un carbone qui devient un diamant, ça prend de l'effort. C'est pas toujours à l'endemain qu'un charbon devient un diamant. Il y a des pressions, la température qui monte. Donc, il faut que le charbon subisse, disons, des conditions un peu extrêmes dans ces cas pour qu'il puisse développer et devenir un diamant. Même chose avec, disons, les épées, une épée du samouraï. L'épée, elle est forgée en lui donnant des coups, puis froid, chaud, hein, des coups. Puis, à la fin, on a une belle épée qui pour les samouraïs, était un honneur d'avoir. Donc, finalement, ce que je veux dire, c'est que pour devenir quelque chose, il faut qu'on fasse un effort. Et si on ne fait pas l'effort en accord des lois de la nature, comme on disait tout à l'heure, ben, il va y avoir les karmas, qui aussi les anciens parlaient du karma, il va y avoir une réaction. Donc le karma, c'est la loi d'action-réaction. Disons, et je sais, on connaît tous les lois de la gravité, la loi de la gravité. Donc, on sait que si on prend la feuille et on la fait tomber par terre, elle va tomber.
Attends, on va vérifier. Alors, qu'est-ce qui va se passer, ça? Ah oui, ça marche.
Bon, chasse, t'as pas pris la tasse. Bon, ça, c'est à peu près la tasse.
Ouais, non, pas cette fois. Pas...
On va vérifier.
La semaine prochaine.
Donc, ça va tomber. Et soit on peut l'utiliser, si on la connaît, on peut l'utiliser pour nous, dans le sens que dans la physique, des fois, on utilise la gravité pour nous épargner de l'effort. Ça, c'est des lois de la physique aussi. Mais où on peut dire, ah, je veux voler, donc je vais aller monter dans les toits et puis je vais me lancer, je vais voler. Ça ne marche pas comme ça. Il va y avoir une réaction à l'action que je suis en train de faire. Donc, on peut voir qu'il y a le dharma qui nous donne une direction et le karma qui essaye de nous maintenir dans ce chemin. Donc, il y a chaque action, une réaction.
Donc ça, c'est une loi, si je te comprends. Donc dans cette tradition de l'Inde, et pas seulement de l'Inde, mais là, puisque tu prends ces termes de karma, il y a cette idée qu'à chaque instant que nous vivons, nous pouvons prendre des décisions ou non, et que ça va avoir une influence sur notre avenir, et sur notre avenir à nous, et l'avenir collectif d'une certaine manière aussi. Donc on a quand même une grande responsabilité. Si on comprend cette loi du karma, ça veut dire que si chacune de nos actions, de nos pensées, de nos sentiments, si tout ça dans l'instant va avoir des conséquences, ben on a tout avantage à savoir bien choisir, à savoir bien décider ce qu'on va faire. Wow, tu nous mets toute une responsabilité là sur les épaules, Daniela.
Oh oh! Donc, est-ce qu'on pourrait dire dans ces cas-là, qu'en fait la liberté n'est pas un objectif, mais le moyen? Parce que si on a le dharma qui nous donne l'objectif et le karma qui essaye de nous maintenir dans ces chemins, donc la liberté, dans le fond, peut être le moyen de pouvoir choisir ou pas choisir.
Oui, mais là, c'est quoi l'objectif? C'est quoi la finalité? Vers quoi? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Alors ça, c'est pas évident non plus. Vers quoi on s'en va? Mettons, l'humanité, c'est quoi l'idéal de l'humanité? Alors, est-ce que c'est la violence? Est-ce qu'on dit, l'avenir de l'humanité, on veut que ce soit la violence, la guerre? Non. L'agressivité? La haine? Non. Non. Donc, quand on pense à l'avenir de l'humanité, on se dit, un monde fraternel, un monde solidaire, quoi d'autre? Un monde généreux, pourquoi pas? Amical, pas vrai? Donc, on a quand même une certaine image, même si on n'est pas les grands philosophes, les Platons et tout ça, on a quand même une certaine image de ce que pourrait être, ce que pourrait devenir l'humanité, et à commencer par nous-mêmes. Mais est-ce que nous, je ne dis pas pour vous, mais est-ce que moi, je suis toujours fraternel, généreux, solidaire? Qu'est-ce que j'ai dit d'autre?
Amical.
Pas toujours. Donc, il y a des blocages, il y a des freins. Mais c'est quoi ces freins-là? Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Aide-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui m'arrive?
Mais pas juste toi, Charles, on est tout. Mais je pense que ce sont des freins, des... Comment on pourrait...
Parce que là, la question, c'est est-ce que c'est le système ou nous-mêmes? Ça vient de où, là, le blocage?
Ça vient des deux côtés.
J'aime pas ça.
Parce que, disons, un système qui veut... que ça dépend de ce que le système veut développer. Si le système veut développer, l'économie, puis l'être humain n'est pas trop là-dedans, ça va être l'économie qui va croître. Mais s'il s'agit d'un système qui veut aider à l'être humain à se développer et s'épanouir en tant qu'être humain, le système va donner les moyens pour que l'être humain soit libre et puisse se développer. Donc, dans ce sens, le système peut être un empêchement. Mais aussi, nous-mêmes, on peut être des empêchements. Est-ce qu'on est soumis au désir dans le sens qui est « Ok, je vais étudier, je vais aller à l'université, je vais avoir des bonnes notes, mais à toutes les fins de semaine, j'oublie que je dois étudier, je sors, je fais la fête, Puis le lendemain, j'ai un examen, puis j'ai rien étudié. Donc, t'es pas en train d'accomplir tes objectifs. Et c'est quelque chose qui vient de toi-même. Donc, qu'est-ce que t'en penses?
C'est comme une forme de tyrannie, finalement. C'est grave ce que tu nous décris là. Donc on a toujours peur de la tyrannie, on dit on veut la démocratie. Mais là, des fois, on peut être soi-même son propre tyran. Mm. On peut être tyrannisé par nos peurs aussi, des fois.
Mm.
Parce qu'on a tous, la plupart d'entre nous, on a des petites peurs, des fois des grosses peurs. Moi, j'ai des grosses peurs, mais il y en a qui ont des petites peurs. Donc on a des peurs aussi. Mm.
Et la peur aussi, comme tu dis, peut être un... ça vient de nous, dans le sens que tout le monde a des peurs. Mais ça dépend de nous, qu'est-ce qu'on fait avec la peur. Si on décide de la dépasser ou on décide de rester avec la peur et dire « Ah non, pauvre de moi, je suis la victime tout le temps. » Donc il y a...
Mais ça, ce que tu dis, c'est pas une sorte de... C'est comme on est engagé envers quelque chose. Des fois, on dit « Ben non, moi je veux pas aucun engagement. Je veux être libre, je veux pas d'engagement. » Mais là, si c'est notre peur qui nous domine, c'est comme si on s'est engagé avec notre propre peur.
Oui.
Okay. Donc, de toute façon, on est toujours engagé à quelque chose.
Mm-hmm. Ouais. Ouais.
Parce que si, là, c'est une expérience scientifique. On peut faire une expérience scientifique avec un sac de chips. Moi, je suis un scientifique, c'est ma formation. Donc, imaginons qu'on met un sac de chips pour chaque personne. Et on dit, il ne faut pas toucher au sac de chips. Et là, on ferme les lumières et on attend 5 minutes. Est-ce qu'on entend le croustillement des chips ou non? Donc ça, c'est un test scientifique pour voir est-ce qu'on est capable de donner comme une consigne, de se donner une directive à soi-même et de la suivre ou non. Alors, évidemment, collectivement, on veut bien paraître, donc tout le monde va dire non, moi j'ai le bien contrôle sur les chips. Oui. Mais quand on est seul à la maison avec notre gros sac de chips, on va se cacher dans le placard et on en mange des chips. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut être comme, je sais pas, tyrannisé, si je peux dire, ou en tout cas engagé envers quelque chose qui ne nous fait pas vraiment avancer dans l'existence. La gourmandise. Évidemment, on prend des choses gentilles là, ce soir. On est entre nous. Mais on a toutes sortes. On s'engage pas toujours avec le meilleur de nous-mêmes, non? Des fois, on s'engage avec des choses qui sont pas super.
Et les classiques avaient. Si je peux faire un petit dessin au tableau.
Oui, tu peux.
Je vais dessiner 3 sœurs. Parce que, disons, ce que Charles est en train de nous expliquer, disons, les classiques, il disait que l'être humain est constitué, comme on parlait tout à l'heure, d'un corps. C'est un peu compliqué d'écrire de ses côtés. La psyché ou l'âme et un esprit. Puis, disons, Charles est en train de nous décrire les scénarios des chips. Puis ça va être, pour les classiques, ça pourrait être le corps qui est en train de donner la direction. C'est le corps qui dit « j'ai faim, je veux manger ». Mais les classiques nous montrent qu'en fait, il y avait l'esprit qui pouvait comme, donner la volonté de dire « non, je pense qu'il y a quelque chose de plus important que manger des chips maintenant ». Donc, on peut être libre et prendre la décision de ne pas manger des chips. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que en fait, on est constitué de quelque chose de on peut avoir la volonté, on peut avoir on peut choisir. Parce qu'on n'est pas juste constitué, selon les classiques, d'un corps physique, disons, qui va nous dire, oh, je vais aller faire la fête, je m'oublie de tout ce que je dois étudier pour demain, mon examen. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai bien aimé ton exemple. Oui.
Mais il y a d'autres exemples. Il y a d'autres exemples parce que là, on réfléchit aussi à d'autres choses. Il y a des choses qui dominent notre époque aussi. Par exemple, il y a certaines modes ou certains traits culturels, parfois même des éléments religieux qui sont comme des courants qui dominent les époques. Donc nous, notre époque, il y a certaines façons de faire, certains vocabulaires. Donc il y a des choses qui sont comme à la mode. Et si on ne respecte pas la mode, ben on est vu comme une personne qui est à côté, non? Qui est à côté de la plaque, à côté de la traque, comme on dit. Et donc, est-ce que c'est pas une forme de contrainte, finalement, d'essayer de suivre ce qui est à la mode, la dernière chanson, la tenue vestimentaire? Enfin, ça va très, très vite. Et alors, quand est-ce qu'on va être au centre de soi-même? On est comme toujours appelé par toutes sortes d'exigences extérieures, plus ou moins artificielles, non? Et qui nous prennent. Et ça, c'est très présent. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent devenir pour nous des espèces de contraintes artificielles ou extérieures. Et pas seulement la gourmandise ou divers choses comme ça.
Oui.
Ou les peurs, par exemple.
Bien sûr, à différents niveaux, comme tu dis, disons que la mode aujourd'hui, c'est de s'acheter, je sais pas, de s'acheter quelque chose. Puis je viens de l'acheter, tout d'un coup, la mode change. Puis qu'est-ce que je fais avec ce que je viens d'acheter? Il faut le jeter à la poubelle. Donc, on a beaucoup de poubelles, finalement, qu'on n'utilise pas. Et tout pour vouloir suivre une mode qu'on sait qu'elle va changer. Et puis qui sert à rien finalement, parce que en revenant et à ce qu'on parlait tout à l'heure, être libre, pourquoi? Ça sert à quoi être libre? À pouvoir acheter plus de choses? Pas nécessairement. Être libre, je pense que c'est être libre pour pouvoir ne pas dépendre des choses extérieures. Pour que la mode ne dicte pas le choix que tu dois faire, mais que ça soit un choix intérieur fait avec générosité, fait avec discernement. Parce que, comme on disait, à quoi ça sert d'être libre, si libre extérieurement, si intérieurement il y a toujours un chaos, disons.
Et en même temps, à l'intérieur de l'être humain, il y a aussi une sorte d'idéalisme. Il y a comme une lumière, non? Un rêve. Il y a un appel dans l'être humain. On n'est pas juste des défauts, on n'est pas juste des instincts. Il y a quelque chose d'autre dans l'être humain. Et tout le monde, à un moment ou l'autre, et parfois d'une manière même continue, ressent cet appel. Se dit, je ne peux pas continuer dans un monde où avec tant d'injustices, par exemple. La personne sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas en elle-même. Il y a des choses qu'elle voudrait changer. Et parfois, on se sent même impuissant face à ça. On dit, mais ça ne va pas. Comment se fait-il qu'il y ait de telles injustices économiques, par exemple? Alors qu'il y a des surplus alimentaires à d'autres endroits, il n'y a rien à manger. Alors qu'il y a de l'eau potable ici, là-bas, il n'y en a pas. Alors qu'il y a des soins médicaux qu'on met à la poubelle, ailleurs, les gens en auraient bien besoin. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Est-ce qu'on ne se sent pas des fois interpellé en se disant, mais est-ce qu'on n'était pas en train de faire fausse route collectivement dans ce système avec de telles inégalités, de choses aussi choquantes, non? Et parfois, on se dit, on est content, on a la démocratie, et on creuse un petit peu, et qu'est-ce qu'on trouve? La corruption, les gens qui partent avec l'argent du public. Non, à chaque fois qu'on gratte, qu'est-ce qu'on trouve? C'est la même chose. Donc, on dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a cet appel aussi qui est une expression de notre liberté intérieure, de se dire, on ne va pas se satisfaire de laisser rouler le monde de cette façon-là. On voudrait faire quelque chose. On voudrait faire quelque chose, mais quoi? Est-ce qu'on va aller, je ne sais pas, devant le siège social de je ne sais pas quelle compagnie ou devant le Parlement? Ça fait des décennies qu'on fait ça. Et qu'est-ce qui a changé, finalement? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut qu'on trouve d'autres moyens. Il faut qu'on soit plus rusé, plus habile pour exprimer cet idéalisme. Et nous, bien sûr, à Nouvelle Acropole, on dit, nous aussi, on est des idéalistes. Et pour ça, on s'est décrit comme des citoyens
engagés.
Philosophes engagés. On en a mis, des citoyens philosophes engagés. On est engagés, bien sûr, peut-être pas spécifiquement une cause ou je ne sais quoi, mais on s'engage à essayer d'être philosophe dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire apporter une réflexion, apporter si on peut, ouverture dans des situations où on dirait que on ne voit aucune lumière. Au moins ça, si on peut apporter une approche aussi, comment on pourrait dire, avec respectueuse, quoi, respectueuse de ce qu'est l'être humain, de toute la grandeur que peut avoir l'être humain. Même si, des fois, on ne la voit pas trop parce qu'il y a tellement d'injustices, mais quand même, de rêver ça et de vouloir l'exprimer et le rencontrer chez l'autre, ben, c'est une forme de militantisme aussi. C'est une façon d'être militant. Et on se dit, parce qu'on n'est pas seul, c'est pas juste Daniela et moi et l'équipe ici de bénévoles. Il y en a dans 60 pays des philosophes comme nous. C'est-à-dire des citoyens qui veulent réfléchir et qui veulent accorder leurs actions à leurs réflexions. Et donc, ça semble peu, ça semble vraiment minuscule par rapport. Mais de notre côté, si on est un peu comme David et Goliath, on peut, tout petit, arriver à faire tomber des géants, n'est-ce pas? Qui sont parfois plus fragiles qu'il n'y paraît.
C'est encourageant ce que tu dis, parce que finalement, si on a un petit peu de liberté intérieure et on ne l'exprime pas en faisant de bonnes choses, ça ne sert aussi à rien. C'est comme avoir un outil, un couteau, une tasse, puis la tasse reste toujours sur la table, puis je ne peux pas voir du thé avec elle. Donc, je ne peux même pas avoir la tasse, et ça donnerait la même chose parce que je n'utilise pas la tasse. Donc, si j'ai un peu de liberté intérieure et je ne l'utilise pas pour faire de bonnes choses, ça ne donne rien non plus. Même chose avec l'amour, même chose avec la générosité, même chose avec toutes les vertus qu'on peut avoir, toutes les choses qu'on a apprises dans notre vie. Et puis, on ne donne pas ça à la société ou à l'être humain. Et ça ne sert à rien.
Et le philosophe Platon, dont on entend assez souvent parler, même aujourd'hui, il décrivait il a présenté dans toutes sortes d'images, des images symboliques, des allégories. Et entre autres, il présente, il dit, imaginez-vous des gens qui sont dans une caverne, dans une grotte, et on projette devant eux, ils sont enchaînés dans cette caverne, ils y sont enchaînés depuis leur naissance, et on projette des images, un peu comme dans un cinéma. Alors ils ne connaissent de la réalité que l'apparence, disons, d'images projetées sur un mur. Un peu comme nous avec nos téléphones, on dit « Ah, j'ai visité le monde entier, mais tu n'as jamais sorti de chez toi finalement. » Mais donc il dit « Ah ben imaginez ces gens enchaînés, qui croient que ce qu'ils vivent, c'est la réalité, mais en fait, c'est juste un cinéma, ce n'est pas la réalité. » Wow! Et il dit, ben, imaginons qu'il y a un de ces prisonniers, on lui retire ses chaînes, et puis il sort. En fait, les gens, ils ne savent pas qu'ils sont prisonniers, ils se pensent très bien dans cette caverne, ils pensent que ça va très bien pour eux. Ils sont confortables, il y a le chauffage, tout, Internet, tout. Ils sont bien dans leur caverne. Et il dit, on permet à l'un d'entre eux de sortir de ce trou, de cette grotte, et qui découvre qu'il y a les oiseaux, il y a l'air pur, il y a le soleil et tout. Et qu'est-ce qu'il va dire? Mais j'étais prisonnier, là je suis libre, j'étais prisonnier. Donc c'est comme Platon nous décrit comme une sorte de conversion du regard, une façon différente de voir les choses, de se relier. Et il dit, ben, l'être humain, on est un peu comme ça, on est comme dans notre caverne, on pense qu'on est libre alors qu'on ne l'est pas. Et ça prend tout un éveil, non, pour se rendre compte de ça et choisir de changer notre perspective. Et c'est comme si on devait le faire comme plusieurs fois dans notre vie, comme constamment se remettre en question, se dire, mais est-ce que je ne suis pas tombé dans des habitudes, dans des automatismes, et que finalement, je crois que je suis libre, mais finalement, non, je ne le suis pas. Il nous met constamment, Platon nous met constamment en question, il nous questionne, il vient nous piquer, là, comme ça, pour dire, hey, t'es sûr de ton affaire? Vérifie où est-ce que tu en es. Et au fond, c'est quoi qu'il nous présente? Il nous présente un chemin vers le soleil, vers la lumière. Il dit, ben, l'être humain, pour lui, c'est la conscience qui cherche la lumière, qui cherche... Tu sais, quand on dit, je vois la vérité, je le vois, c'est parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il y a eu un flash, et c'est ça le chemin de l'humanité, selon Platon. Et je trouve que c'est une belle image, parce que nous aussi, des fois, on se dit, waouh, oui, Il me semble qu'il y a un feu qui est là en nous et qu'on voudrait faire quelque chose avec ça. Et on dirait qu'il y a plein de murs qui nous empêchent et on voudrait prendre un téléviseur puis le lancer par la fenêtre parce qu'on veut casser quelque chose. Mais il faut canaliser notre énergie, il faut canaliser notre idéalisme, faire quelque chose avec ça. Et c'est la proposition aussi que nous avons à Nouvelle Acropole.
Et le fait dont tu parles maintenant, de vérifier, toujours vérifier, parce qu'on peut croire et dire « je suis libre, je fais tout ce que je veux quand je veux », mais ça peut être une piège aussi, mais ça me rappelle une petite histoire. Je pense que c'est une histoire indienne. Il s'agit d'un petit éléphant qui a toute sa vie été enchaîné. Donc, il n'avait pas assez de force comme pour tirer de la chaîne et la casser. Mais ce petit éléphant commençait à grandir jusqu'à ce qu'il ait la force et assez de force pour pouvoir tirer de la chaîne, la casser et s'en aller. Mais comme il a vécu toute sa vie enchaîné, il ne savait pas qu'il avait la force pour casser la chaîne et s'en aller. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, comme tu dis, vérifier. Est-ce que j'ai assez de force pour casser la chaîne et m'en aller? Et on vérifie aussi avec l'investigation, la réflexion et revenir. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Platon, parce que c'est comme revenir à la source. Aujourd'hui, il y a toujours beaucoup d'opinions, beaucoup de gens qui mais beaucoup d'opinions dans le fond. Donc le fait de revenir aux philosophes classiques comme Platon, Giordano Bruno et tant d'autres, c'est comme OK, revenir à la source, et d'ici, on va commencer à construire quelque chose. Donc, c'est ça, il faut toujours vérifier, est-ce que vraiment, je suis libre? Vraiment, je...
Et là, on n'est pas seul sur ce chemin de libération, on n'est pas seul. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet de philosophes, de civilisations, de cultures, qui nous ont apporté des réflexions, des exemples aussi. Ils l'ont fait, donc ils des exemples imparfaitement, mais ils ont avancé vers ça. Donc l'Inde, évidemment, les traditions du bouddhisme en tant que philosophie, le Tibet que j'ai mentionné, le Confucius est un bon exemple. Confucius, waouh, très haut niveau. Hein, disons qu'il dit, ben, qui veut apprendre, il a fait une école ouverte à tout le monde. Il a fait une école de philosophie ouverte à tout le monde. Il dit, si vous voulez apprendre, vous pouvez venir, on va faire un compagnonnage de philosophes, vous êtes bienvenus. Donc, vraiment, très belle approche. Les traditions en Égypte, Platon, évidemment, les traditions stoïciennes, et tant d'autres. Pour ça, on a monté le programme. C'est pas nous qui l'avons créé, le programme, c'est le programme international, mais on a monté ce programme parce que des fois, ça fait du bien de se replonger dans les choses essentielles, dans les choses vraiment dans leur pureté originelle. Et puis après, on retourne dans le combat du quotidien, si je peux dire. Mais on s'est ressourcé, non? C'est comme un spa. En fait, on prend comme un spa, tu vois, le spa philosophique, là. Et puis après, bon, ben, tu retournes dans le combat de la vie de tous les jours. Parce que bien sûr, c'est un combat. Bien sûr, on rencontre des résistances. Bien sûr, on parle à des amis, des collègues, tout ça. On leur dit, ben, écoute, c'est quoi tes grands rêves dans la vie? Et puis, ben, moi, c'est aller en vacances. On dit, mais est-ce que tu rêves pas pour l'humanité? Est-ce que tu rêves pas pour toi-même aussi? Oh non, ces rêves-là sont éteints pour moi, c'est fini. Mais nous, non. Nous, à Nouvelle Acropole, ils sont bien vivants, ces rêves-là. Nous, on pense que l'être humain est toujours jeune tant qu'il a ses rêves bien éveillés et qu'il essaie de les vivre. Et c'est l'invitation qu'on fait, au fond. Si ça vous tente, vous renseignerez tout à l'heure sur nos ateliers de philosophie. C'est vraiment pas des cours académiques, c'est une inspiration. C'est quelque chose que moi j'ai rencontré il y a de ça plus de 20 ans, quand je sortais de l'université, et qui vraiment m'a permis de changer le cours de ma vie, parce que je m'en allais vers la dépression. Donc, ça m'a beaucoup aidé, parce que j'étais vraiment très, très idéaliste, et je le suis encore. Donc, est-ce qu'on peut conclure?
Oui.
Ah, ouais. Parce que moi, je ne sais pas comment faire pour conclure. Je sais pas.
Mais je pense que, finalement, ce qu'on peut parlais, si vous avez des questions tout à l'heure. Mais la liberté, ça revient à être quelque chose que chacun de nous doit définir. Qu'est-ce que c'est être libre pour moi? Et si je réussis à être libre, qu'est-ce que je veux faire avec la liberté? Donc, voilà, si vous avez des questions, des commentaires,
oui.
nous sommes pas là. C'est pas vrai. Nous sommes là pour discuter.
Oui.
Oui, donc je me dis, donc, si on se libère de la mode, des courants dominants, des croyances, des addictions, des peurs, etc., ce qui reste, c'est notre dharma, c'est qui on est vraiment, c'est ça? Et donc en fait, on est libre de le vivre pleinement.
Oui.
Et à ce moment-là, l'engagement de vivre tel que ça devient un engagement libératoire.
Ça? Oui, oui, voilà. Ben, je pense qu'il a fait mieux la conclusion.
Et qu'en est-il de l'ego? Est-ce qu'on peut être libre de son ego?
Qu'est-ce que tu définis? Comment tu le définis ça, l'ego?
Une vision un peu négative de l'ego.
Négative.
Mais je ne sais pas trop vraiment comment le dire.
Ben, en fait, si on considère... Imaginons qu'on définisse l'ego comme étant notre personnalité, c'est-à-dire notre corps physique, nos émotions, notre capacité de réflexion. Imaginons qu'on le définisse comme ça. Eh bien, on n'a pas vraiment ni à s'en défaire, ni à s'en libérer, parce qu'on en a besoin. On a besoin, non, de ce pouvoir mental, on a besoin des sentiments, de les exprimer, de les percevoir aussi. On a besoin de notre corps physique. Pas vrai, parce que si on n'a pas le corps physique, on ne serait pas là tous ensemble. Donc, ce n'est pas vraiment ni s'en défaire ou s'en libérer, mais par contre, si on peut s'en faire un allié, faire de notre ego, pour prendre ton terme, de s'en faire un allié dans notre quête d'identité, dans notre volonté, disons. À ce moment-là, je crois que ça serait... J'aimerais bien cet ego.
OK. Merci.
Oui.
Je dirais à son commentaire, avoir un ego sain, ça sera bien. Mais là où je voulais aller pour montrer ce que tu viens de dire, c'est que, disons qu'on se libère, on a trouvé notre liberté intérieure, on a trouvé l'espace pour mettre en œuvre nos qualités. Maintenant, la question, c'est est-ce que le destin va nous amener, parce qu'on peut le valorifier de plusieurs façons, n'est-ce pas? Et par hasard aussi, right? Toutes les bonnes causes pourraient être devant nous. On peut faire du volontariat, on peut faire, je ne sais pas, militantisme social. C'est ça ce qui est intéressant. Est-ce qu'on doit choisir ou juste par le fait qu'on est pleinement présent et libre de toute contrainte? Moi, j'appelle ça un peu abruti. On se libère de l'abrutissement de tout ce qui est social contraint. Est-ce qu'il faut choisir ou les occasions vont se présenter? Parce que c'était ma question.
Mais se libérer, disons, complètement, je pense que c'est graduel, là, petit à petit. Imaginons une échelle qui va jusqu'à... Donc, petit à petit, on va réussir à se libérer d'une de nos contraintes intérieures, par exemple. Mettons, la personne est irritable. Bon, je suis moins irritable qu'avant, mettons. Donc, tranquillement, on se libère. Et je pense que oui, selon moi, si la personne, tranquillement, comme enlève des voiles qui obscurcissent sa vue, sa perception... vient un moment où ces options sont... Il y a moins d'options. Parce que son chemin est de plus en plus droit.
Direct, ouais.
Plus direct. Mais je pense pas que ce soit du hasard. Parce que si la personne choisit de faire ce que vous décrivez, d'épurer un peu ses mauvais sentiments, elle le choisit, c'est pas par hasard. Donc, il va y avoir des conséquences. Le fameux karma, donc action-réaction. Donc, elle agit sur elle-même. Et elle va avoir des réactions, des conséquences, des effets correspondants à ce qu'elle fait. Et bon, ce qui va se présenter à la personne ne sera probablement pas le hasard, mais plutôt ça va correspondre à ce à quoi elle se prépare finalement. Ça va comme ça?
Oui, c'est bien.
Il y a une question?
Oui.
Oui.
Pardon. On dit que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Dans une société... ultra complexifié, ultra imbriqué, où chacun dépend de l'autre. Donc on est le courant, tu vois, qu'il y a des électriciens, des ingénieurs, des machins, des études,
ouais.
Où on est à la fois client et employé, tout le monde. est-ce que c'est possible d'être libre dans une société comme ça? Ou est-ce qu'il faut sortir de cette société? Ou est-ce qu'il faut la repenser complètement, essayer de la détruire, partir d'autre chose, voir le monde autrement que par le capitalisme ou le communisme?
Mais si je peux ajouter une petite chose, je pense que, disons, au moment où notre liberté, on parle de liberté parce que, disons, toutes les personnes qui ont une montre sont plus libres. Toutes les personnes qui s'habillent comme ça sont plus libres. Disons, si on parle des choses, que les choses extérieures, soit le travail, soit les choses qu'on achète, et ça va être ça qui va nous rendre plus libres. Je pense qu'on peut comme perdre de vue le vrai chemin. Parce qu'en fait, la liberté, c'est quelque chose qui va nous unir au lieu de nous séparer. Donc, si ce qu'on est en train de construire aussi nous sépare, je pense que ça ne serait pas le bon chemin.
Donc, il faut changer de modèle.
Oui. Oui. Et je pense aussi que ça commence par nous-mêmes. Il faut être libre, comme s'harmoniser soi-même pour pouvoir aussi apporter à la société. Parce que si on est aussi en chaos intérieur, on va que créer le chaos aussi extérieurement. Donc, on peut juste donner ce qu'on a. Si on n'a pas quelque chose à l'intérieur, on ne va pas pouvoir donner ça. Donc, oui. Voilà.
Et pour revenir à Platon, parce que ça me fait penser à une petite histoire de Platon qui racontait, imaginons qu'il y a un bateau, à l'époque, les grands voyages se faisaient sur la mer, la Méditerranée, tout ça. Imaginons un bateau, ben, tout le monde sait où on va aller avec ce bateau. On va au port, au Liban, ou quelque part comme ça. Donc on sait où on va avec le bateau. Mais pour s'y rendre, il faut que tout le monde qui est sur le bateau collabore. Non? On ne peut pas dire, ben, moi je suis cuisinier, ben, je fais la grève, tu sais, mais on va pas arriver à destination parce qu'on a besoin. Et le capitaine il dit, oh, ben, moi je vais être ivre, je vais boire de l'alcool et donc je suis plus capable de voir mes instruments. On va pas arriver non plus. Alors c'est comme si depuis celui qui balaye le pont, qui lave le pont, jusqu'au capitaine et tout, il faut que tout le monde accomplisse sa mission, disons, pour qu'on arrive. Donc, je ne dis pas... c'est-à-dire qu'il faut, c'est comme si on sait qu'on veut arriver à quelque part. On sait qu'on a un destin, une destinée. Mais pour y arriver, il faut qu'il y ait une collaboration de tout le monde. Et si chacun fait à sa façon, on dit « Non, non, moi, le capitaine, je vais m'occuper des pommes de terre. » Et puis, le cuisinier va s'occuper des instruments. On ne va pas arriver non plus. Donc, c'est pas moins noble, quel que soit ce qu'on exécute, nous, dans la vie, ce qu'on fait, nous, dans la vie, même si ça a l'air tout petit, c'est pas moins noble que quelqu'un qui est très connu ou qui est très populaire. Si on fait bien, si on fait avec conscience ce que nous, on a à faire, eh bien, on contribue à un monde meilleur, on contribue à une société meilleure. Et des fois, ça peut être juste prendre un temps de réflexion. Des fois, prendre un temps de réflexion. Comme vous avez fait, comme nous, on a fait ce soir aussi, on se dit, ah ben, on va prendre une heure, on va réfléchir. Peut-être qu'on n'a pas les grandes réponses, et tout, mais au moins, on a amené la conscience ailleurs que dans l'actualité, puis le hockey, tout ça. Donc, ça nous fait du bien, des fois. Oui?
Si je peux derrière, c'est ça. C'est sur une réponse, sur si on partageait une idée.
Puisque c'est toi, c'est correct.
Et juste ça, c'est une question que je me posais depuis longtemps. Est-ce qu'on peut changer le système de l'intérieur ou est-ce qu'il faut changer de l'extérieur? Et je pense qu'il ne faut pas le fuir. Il faut y être présent de manière différente pour laisser émerger une nouvelle chose en son cœur. Et quand on arrive à cette masse critique un peu, et ben, tout ça change de forme et il y a l'autre qui prend la place.
Le temps presse, en fait.
Oui, c'est ça, je dis ça parce qu'en fait, je fais un cours de décroissance maintenant.
Ah,
et donc, on nous dit, oui, faut produire moins, oui, mais pour l'instant, il faut que chacun prenne sa responsabilité pour faire ça, puis partager petit à petit.
Merci. Donc, on va, oui.
On sait tous qu'on va mourir un jour. Vous ne voyez pas que la mort peut être comme une limite pour la liberté?
Très bonne question. Ça... On l'avait marqué sur notre feuille.
J'ai pas la réponse. C'est vrai, j'ai pas la réponse parce que... Non. Ben, ça dépend que la conception qu'on a sur la mort. Mm. Si pour toi, la mort, c'est la fin de tout, ben, ça va être pas juste un empêchement pour la liberté, ça va être un empêchement pour beaucoup de choses. Mais déjà, les civilisations anciennes, les classiques, et puis la sagesse ancienne, les connaissances anciennes, nous disent que la mort, c'est juste le passage à une autre étape. Donc, dans le fond, ça dépend de qu'est-ce que chacun de nous, on comprend comme qu'est-ce que c'est la mort. Donc,
pour quelqu'un qui ne croit pas à la vie après la mort, ça peut être déprimant, ça. Ça peut être
déprimant. Ouais, ben, ça peut être déprimant.
C'est ça. Pour ça, il faut vraiment... Pour ça, c'est important d'étudier, d'investiguer sur qu'est-ce que l'être humain, qu'est-ce qui le constitue, corps, psyché, esprit, par exemple. Parce que si la personne a fait une investigation, elle s'intéresse aux neurosciences, elle s'intéresse à des choses d'actualité et aux classiques, bon, ben, il y a des éléments qui vont l'éclairer sur ça. Oui, mademoiselle.
Même si on ne croirait pas, je pense, à la vie après la mort ou à la réincarnation, ou peu importe, je pense que en ayant une volonté humanitaire pour nos descendants, mettons, même si nous, on va mourir, ben, qu'est-ce qu'on peut laisser à ceux qui sont pas morts, finalement?
Oui, c'est ça, avoir des idéaux de générosité, des fraternité un peu, oui, exactement. C'est intéressant.
Excellent. On s'arrête là. Merci de votre attention.
Merci à tous. Merci à vous.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.